L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. Édition de l'après-match aux couleurs de la CAN. D'ailleurs, Radio Méditerranée Internationale va bien sûr vous offrir une couverture exceptionnelle pour cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec bien entendu toutes les émissions, tous les grands rendez-vous sportifs sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, aux couleurs du grand événement qui débute vendredi prochain en Égypte. Sera parmi nous l'un de nos envoyés spéciaux en Égypte. Il est au Caire ce soir, Fouad Hannaoui. Fouad, bonsoir.
Bonsoir Jalan, bonsoir à tous et à toutes.
On aura également avec nous Hervé Penaud et pour cette édition, nous allons faire notre tour d'Europe, des Africains de l'Europe, des joueurs qui vont participer à cette CAN. Comment est perçue la CAN en Liga espagnole avec Fred Hermel, en Bundesliga avec David Lortolari, en Première Ligue avec Aurélien Devernois ou encore en Serie A italienne avec Simone Rovera. Fouad, tout d'abord, quelle est l'ambiance du côté du Caire, allez, à 4 jours du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations?
Écoute, Jalal, d'abord, il y a la chaleur que vous connaissez, bien sûr, qui est pas mal de fois ici au Caire, en Égypte, une chaleur suffocante, pas moins de à peu près 40 degrés dans la capitale égyptienne. Il y a aussi la capitale égyptienne connue par ses klaxons, ses embouteillages, depuis notre arrivée hier soir, très tard, et aujourd'hui. On a assisté à ces embouteillages et on va sûrement en pâtir pendant tout le mois. Écoutez, l'ambiance pour le moment, il est un peu, pas beaucoup d'intérêt, sauf les drapeaux. De la CAN, des pays africains qui participent à cette édition, qu'on a vu ici dans le centre-ville, dans quelques quartiers. Hier, il y avait ce match amical de l'Égypte face au Mali, face à la Guinée, une victoire égyptienne 3-1. Les gens en parlent, mais on attend que les choses sérieuses commencent dès vendredi prochain, d'après et quelques contacts avec quelques Égyptiens, l'optimisme est de mise. On est optimiste pour cette équipe égyptienne, tandis capable de garder le titre ici en Égypte, comme l'a fait la sélection des Pharaons, que ce soit en 2006 ou 1986.
Voilà donc pour cette ambiance générale, Fouad, les sélections commencent à arriver. Est-ce qu'on commence à sentir ce souffle de la CAN?
Pas encore, Jalal. Je ne te mens pas encore. Il faut dire qu'on vient juste d'arriver hier soir. On n'a pas encore senti cette ferveur qu'on a l'habitude de vivre pendant les CAN qu'on a pu couvrir tout au long de ces deux dernières décennies. Comme je vous ai dit, pour le moment, on en parle, mais très, très, très timidement. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont un petit peu suivi le match d'hier, qui parlent surtout de la sélection égyptienne, qui parlent de Mohamed Salah, de cette génération qui est un petit peu déçue lors du dernier mondial en Russie. On est vraiment optimiste à ce que Mohamed Salah, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Liverpool, puisse conduire aussi la sélection égyptienne vers le sacre final le 19 juillet prochain.
Fouad Hennaoui, l'un de nos envoyés spéciaux au Caire, bien entendu, on va te retrouver tout au long de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on espère la plus longue en tout cas, pour les Lions de l'Atlas. Merci Fouad.
Merci Jalal et Ah, bonjour à tout le monde.
Et bonne canne, surtout. Bonne canne pour toi et pour les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas qui ont poursuivi hier leur préparatif à cette Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième match de préparation. Deuxième défaite après la défaite 1-0 face à la Gambie. Les hommes d'Hervé Renard ont chuté 3-2 face à la sélection de la Zambie qui n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avec nous pour en parler, Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain. Bonjour Hervé.
Bonjour Jalal, bonjour les amis. J-4, ça y est, ça approche, on y est presque. Alors, où en est l'équipe du Maroc? C'est l'interrogation qu'on peut avoir après cette nouvelle défaite contre la Zambie, hein, après celle qui est contre la Gambie, toujours à domicile. C'est une troisième, hein, avec la défaite aussi contre l'Argentine il y a quelques mois, hein, en match amical. Maintenant, méfions-nous quand même très largement de ces matchs amicaux. Je sais qu'Hervé Renard, je le disais la semaine dernière, mais il a toujours pris ces matchs vraiment comme de la préparation. Il ne s'est jamais tellement attardé là-dessus. Alors attention, le connaissant, quelques remises en cause sont certainement à attendre. Il va resserrer quelques boulons. On a entendu qu'il y avait des petits bruits, de petites choses qui se passaient dans le rassemblement. Mais lui, il va gérer ça. Il sait faire, il l'a montré, il l'a prouvé. Avec la Côte d'Ivoire, de la même manière, quand il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de gens avaient dit sortir des matchs amicaux. Oh là, mais où va cette équipe? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, au final, elle avait remporté l'épreuve. Il a déjà prouvé suffisamment qu'il savait exactement comment gérer ce genre de compétition. Il l'a quand même remporté deux fois. Maintenant, il va falloir que les joueurs d'attaque soient plus efficaces. Il va falloir gagner dans ce dernier geste, dans cette dernière passe, ce qui pour l'instant est un petit peu le problème. On a vu aussi que défensivement, il y a eu des absences, mais je pense que petit à petit, ça va monter en régime et l'équipe va commencer à atteindre sa plénitude. Logiquement, vu le travail foncier qui a été fait, c'est vers les huitièmes, quarts de finale. Donc d'abord, sortir du groupe, évidemment, qui sera l'objectif, et puis après, rêver à remporter sa canne, parce que je peux vous dire qu'Hervé Renard, il n'y a qu'une seule chose qu'il veut faire, c'est de remporter cette canne. Ne pas trop s'inquiéter, ne pas surinterpréter, à mon avis, les résultats des matchs amicaux, et puis après, voir comment ça va se passer.
Voilà, ne pas trop s'inquiéter, affirme Hervé Penaud. On va écouter la réaction de l'entraîneur adjoint de cette équipe du Maroc, bien sûr, Bommel, qui n'était pas fier, qui n'était pas content. Lui qui a remplacé dans cette conférence de presse le sélectionneur Hervé Renard. On écoute la réaction de Patrice Bommel après cette nouvelle déconvenue.
On se sert de tout, des bonnes choses comme des mauvaises. Je vais vous dire quelque chose, au soir du match de la Gambie, le staff, les joueurs étaient très très déçus, on était tous déçus. Ce deuxième match, c'est la même chose. Au bout de 45 secondes, on concède un but, gag, ça fait partie du jeu. On en tient compte, on ne le met pas à la poubelle, on n'oublie pas. Ce sont des faits de jeu qui montrent qu'il manque un petit peu d'ingrédients, de fraîcheur, de spontanéité, de première passe, de complémentarité, mais ça on le sait. Ça ne fait pas plaisir de se faire siffler, ça ne fait pas plaisir de perdre. Mais je vais vous dire, ça nous motive 100 fois plus.
Voilà, ça nous motive 100 fois plus cette ambiance un petit peu difficile, compliquée que vit la sélection marocaine avec bien entendu d'abord cette grosse affaire, celle de l'affaire Hamdallah sur laquelle revient Patrice Bommel.
Sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas le problème Hamdallah ou autre. Sincèrement, on est en pleine préparation et on veut voyager en Égypte avec tous les joueurs et le staff déterminés pour être ensemble. Donc je pense qu'on parlera de ça après et vous verrez que je pense que ce n'est pas grand-chose. Hamdallah n'est plus là et on doit faire sans. En tant que staff et coach, on doit préserver un groupe, une équipe et l'essentiel, c'est l'Égypte.
Voilà, l'essentiel c'est l'Égypte et l'équipe du Maroc qui va débuter lors de cette Coupe d'Afrique des Nations le 23 juin, dimanche prochain. Il reste une semaine donc à Hervé Renard pour se préparer à ce grand rendez-vous. Lui qui connaît la CAN, lui qui a gagné à deux reprises la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire. Pas que le Maroc qui se prépare à cette Coupe d'Afrique, que plusieurs autres sélections avec des performances chez certains, des déceptions chez d'autres. Hervé Penaud.
Et alors, on a vu quand même toute une série de matchs amicaux intéressants hein, pour voir. Alors, je l'ai dit, hein, pour le Maroc, il ne faut surtout pas s'attarder trop non plus sur les résultats parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais enfin, une équipe, par exemple, comme la Tunisie qui s'impose en Croatie, c'est un énorme coup. C'est vraiment pour eux, en termes de confiance, ça va être très, très important. Mais on sait aussi que si vous commencez votre compétition difficilement, bah, votre confiance, elle va vite s'évanouir en dépit de ce succès contre le finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et puis, on voit le Sénégal monter petit à petit en puissance, sans Sadio Mané, hein, qui a été laissé au repos, parce qu'il vient d'arriver tardivement. Et ben, vous avez eu l'équipe qui a battu le Nigeria. Alors attention, c'est sur un match qui avait lieu dans un hôtel, dans des conditions particulières. Je trouve d'ailleurs, sur un plan personnel, que ça ne devrait même pas compter pour la liste des matchs officiels des différentes équipes. J'espère que ça ne comptera pas d'ailleurs. Bon, mais toujours est-il, but d'Idrissa Gueye, qui joue un tout petit peu plus haut aujourd'hui. Une équipe qui se dessine, on sait à peu près comment ça va se passer avec eux. Toutes les stars de l'équipe seront présentes. Donc là, c'est du solide. Maintenant, il faudra avoir à l'usage, une nouvelle fois, je le répète. Et puis un mot sur l'Égypte, évidemment. Salah, superstar. Salah qui a encore ébloui tout le monde contre la Guinée. Et ben, lui, on sait que ce sera la star absolue de cette Coupe d'Afrique des Nations dans son pays. On l'attend vendredi pour le match d'ouverture. Je peux vous dire que ça va être un moment énorme. On en reparlera vendredi. Mais là, ça va être impressionnant l'accueil que vont recevoir les Égyptiens chez eux. Attention, il faudra les bouger, les pharaons. Je l'ai souvent dit. Pour moi, c'est l'équipe qui s'avance comme le favori de cette compétition. Et puis avec un Salah qui revient en pleine forme. Il avait raté, rappelez-vous, la Coupe du Monde avec sa fameuse blessure en finale de Ligue des Champions. Et bon, aujourd'hui, il est là, bel et bien là, présent, avec l'ambition d'aller loin, pas d'aller loin, de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et un pays sur le dos, une Coupe d'Europe en plus en magasin. Attention à l'Égypte. Donc, eux, ils font partie, bien sûr, le favori. Et surtout, ils ont montré assez vite, même dans les matchs amicaux, qu'ils étaient présents, qu'ils supportaient la pression du public.
Voilà, donc ils sont favoris les Égyptiens, l'Égypte qui accueille cette Coupe d'Afrique des Nations. Et petit cadeau de la part de la CAN, l'arbitre Jihad Grisha qui a été suspendu 6 mois a été réhabilité juste avant le coup d'envoi de cette CAN. Il participera donc à la Coupe d'Afrique des Nations. Nouvelle décision, on va dire étonnante de la part de la CAF, Hervé.
Mais surprise, il se passe encore quelques petites choses, et notamment la réintégration de Grisha, l'arbitre égyptien suspendu, hein, vous savez, 6 mois après le match aller de Ligue des Champions. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On apprend, eh ben, dites donc, par le Twitter officiel de la Fédération égyptienne, qu'il a été réintégré. Donc, il pourra arbitrer durant cette CAN. Alors, nouveau contretemps, je vais pas dire rigolade, version CAF, mais enfin là ça commence à faire beaucoup. Donc d'un arbitre qui visiblement méritait plus d'arbitrer sur les terrains africains, eh ben il sera bien là durant la CAN. Alors on espère que c'est le dernier avatar un peu de tous ces événements qu'on a connus, qu'enfin le football africain va être lancé sur des bons rails avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, hey, on est à l'abri de rien en ce moment. Mais toujours est-il que nous aurons donc cet arbitre égyptien durant la CAN, en espérant simplement qu'il ne sera pas mis sur les matchs égyptiens. Non, je rigole.
Hey, il est drôle, très drôle, notre Hervé Penaud. Tout aussi drôle que Fred Hermel. Salut Fred.
Presque aussi drôle. Hola chicos. Salut Jalal, salut ouais. Hervé, salut à tous.
Presque aussi drôle, parce que tu es plus drôle que Hervé Penaud. Alors la CAN, je sais que ça t'intéresse, bah, du moment que beaucoup d'internationaux africains qui évolueront dans cette CAN sévissent dans ta Liga. Fred, on va d'abord s'attarder sur cette... triste histoire, mais belle histoire quand même, du gardien international marocain Mounir Mhamdi, et qui, bien entendu, a choisi de rester avec son équipe Malaga jusqu'à l'issue de ces matchs de barrage. Bien, Malaga n'évoluera pas dès la saison prochaine en première division après une nouvelle défaite face à la formation du Deportivo La Corogne et une énorme bourde de Mounir Mhamdi, Fred.
Pour moi, c'est l'image du football ce week-end. Je dirais même que c'est une belle image. C'est quelque chose qui devrait réfléchir beaucoup de publics d'Espagne, et je citerai en premier le public du Real, le public du Bernabéu, le public du Camp Nou, le public du Barça. Parce que c'est vrai qu'il y avait... Alors, on est dans la dernière marche des play-offs. On pourrait dire les demi-finales de play-offs, puisque la finale va opposer ce Deportivo de la Corogne à Majorque. Et dans cette demi-finale de play-offs, il y avait Malaga de Mounir. Mounir qui a fait quand même une bonne saison hein, en Liga régulière, il a été excellent cette saison. Il n'avait pas été extraordinaire lors de la défaite 4 à 2 au match aller. Et c'est vrai qu'il y avait un espoir de remontada du côté de Malaga. Mais tu l'as dit, une bourde énorme de Munir a condamné son équipe. Et moi, je connais beaucoup de stades en Espagne, surtout dans les grands clubs, où on aurait sifflé, on aurait parfois insulté le gardien qui aurait fait cette bourde. Et là, j'ai vu un stade, 40 000 personnes, debout, en train d'applaudir, de chanter, de crier le nom de Munir, les coéquipiers du joueur marocain venir l'embrasser, lui donner une petite tape dans le dos, le soutenir dans cette épreuve. Eh ben, je pense que Munir a eu raison de rester, même si c'était pour ça. Le football, ce sont aussi des déceptions. Il a été appuyé comme jamais un joueur qui a fait une énorme bourde pouvait l'imaginer. Et moi, je trouve que le football, ce n'est pas que la victoire. Le football, ce sont aussi des marques d'amitié, de soutien, comme celle qu'a reçue Munir. Donc, je peux comprendre sa tristesse, mais je pense que ça a laissé, et je pense pas, j'en suis persuadé, la plus belle image du football, pas de cette semaine, depuis plusieurs mois. Ça, ça m'a personnellement touché, et je sais que beaucoup de fans de par le monde ont été marqués par ce public de Malaga magnifique avec le gardien marocain.
Voilà, magnifique image, effectivement, image de communion entre les supporters de Malaga, malgré la déception, et Munir et les autres joueurs du club. La Liga est à l'arrêt, mais la Liga est sur toutes les langues, sur toutes les images, mon cher Fred. Ça bouge, ça a bougé, ça continue de bouger, et ça va encore bouger au Real Madrid, bien sûr, Eden Hazard, la grande star, Jovic, et puis la petite pépite japonaise, celui, encore un, en tout cas, qu'on présente comme le Lionel Messi du futur, Fred.
Alors, c'est vrai que nous ne sommes qu'à la mi-juin, mais on a l'impression d'être à la mi-août. Vous savez, quand tout le monde se précipite pour faire signer les joueurs, c'est vrai que ce marché commence très très vite. Le Real Madrid a déjà engagé 5 joueurs plus 1, puisque le jeune japonais va être avec le Castilla. Mais pour la première équipe, on en est déjà à 5 joueurs. Rodrigo, qui a été engagé il y a un an au Brésil, va être présenté demain. Hazard a déjà été présenté. Jovic a été présenté. Militao sera présenté dans quelques jours. On a la présentation de Ferland Mendy mercredi. C'est vrai que du côté du Real Madrid, on est en train de vraiment bien se renforcer. Et c'est Zidane qui est content. J'ai eu l'occasion de lui parler. Les choses fonctionnent comme lui l'avait demandé à son retour le 11 mars dernier. Il voulait des joueurs très précis. Il voulait Jovic, il l'a eu. Il voulait Hazard, il l'a eu. Il voulait Mendy, il l'a eu. Il veut Pogba, il risque de l'avoir. Et puis, comme tout le monde ici, il veut Mbappé. Mais bon, ça sera peut-être un peu plus difficile, mais ça sera pour la fin du mercato peut-être. Mais en tout cas, Zidane sait que dès le 8 juillet, date de retour à l'entraînement, il va pouvoir compter sur un effectif au contour bien défini. Voilà, même s'il va falloir se débarrasser, pardonnez-moi, c'est pas beau comme mot, se séparer d'une quinzaine de joueurs, puisque l'effectif est aujourd'hui de 37 membres dans ce vestiaire, Zidane a les recrues pour commencer à bosser, et donc il est aux anges, il est très très heureux. Et s'il y a un joueur qui lui fait plus plaisir que les autres, c'est bien entendu Eden Hazard. J'ai ce matin pu parler avec quelqu'un de son staff technique, mais ils sont tous comme des fous quand ils pensent à ce que va pouvoir faire Hazard. Le staff technique du Real, à commencer par Zidane, pense que nous n'avons pas encore vu la meilleure version d'Eden Hazard, et qu'elle va naître dans la meilleure Liga du monde, sous les ordres et sous le maillot de Zizou et sous le maillot blanc du Real.
Voilà donc, mon Fred, les dernières nouvelles du Real Madrid. Est-ce que du côté du Barça, on a du nouveau aussi? On a une déclaration aujourd'hui de Bartomeu, le président de l'équipe du FC Barcelone, au sujet d'Antoine Griezmann.
Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Griezmann, sincèrement, parce que... Et puis comme Neymar pourrait être sur le marché suite aux déclarations de Nasser El Khelaifi dans France Football apparaître demain, vous savez, tous ces patrons de clubs qui font un peu de bluff, qui ne disent pas vraiment la vérité, j'ai vraiment le sentiment que Griezmann, lui non plus, ne sait pas où il va aller. Mais vraiment, il a quitté l'Atlético peut-être un peu vite, mais qu'est-ce que va dire Bartomeu si Messi change d'avis? Si Messi dit finalement, je veux Griezmann. Et si, ou si l'amant, il dit, bah non, je veux le garder parce qu'il veut protéger son pote, Luis Suarez. C'est un, j'ai emploi un mot, le saut qu'il y a quand même un petit peu dans l'histoire Griezmann. Enfin, c'est un culebrón, comme on dit en espagnol. C'est une telenovela. Enfin, ça risque de prendre des semaines. Et moi, je continue à penser qu'il reste un pourcentage de chance réel que Griezmann n'aille pas au Barça, mais là, il est au PSG.
Mais parce que est-ce que Fred, tu penses pas que est-ce que un joueur quand même hein, de la valeur d'Antoine Griezmann, on peut le considérer aujourd'hui comme un top 5 mondial, peut être aussi, en tout cas son sort peut paraître aussi incertain alors que il a déjà quitté un club et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui se bousculent pour l'avoir. Rapidement.
Parce que je pense qu'il sait très bien, bien sûr qu'il y a un accord verbal avec le Barça, mais si le Barça peut récupérer Neymar, mais Messi va faire un lobbying de folie pour que ce soit Neymar et pas Griezmann qui aille au Barça. Sincèrement, moi je trouve que la déclaration la plus importante de ces dernières heures, c'est bien celle de Nasser Al-Khelaifi qui ouvre la porte à Neymar. Vraiment. Enfin, je pense que ça peut avoir des conséquences énormes sur le marché des transferts. Je pense pas que Neymar va aller au Real puisque les supporters n'en veulent pas. Et Florentino Pérez écoute les supporters qui sont les socios. Mais il se trouve qu'au Barça, ce sont aussi les socios qui votent. Et que Bartomeu doit écouter ce que disent les électeurs. Et s'il y a une possibilité de faire revenir Neymar, je suis persuadé que le Barça ira chercher Neymar.
Merci.
On va passer un été très animé, les amis, moi je vous le dis.
L'été sera chaud. Merci Fred.
Adios.
Adios. On va te retrouver très prochainement. Fred, c'est la fin de cette première partie de l'après-match. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième mi-temps de votre émission. Seconde partie de cette édition de l'après-match presque exclusivement consacré à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Bah, on a évoqué la CAN avec Hervé Penaud, bien sûr, avec même Fred Hermel. On en parle aussi avec David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, bonsoir à tous.
Alors, bien entendu, la Bundesliga est à l'arrêt. La Bundesliga, un championnat où plusieurs internationaux africains qui vont participer à la CAN évoluent. Comment est perçue cette compétition et quel est le joueur qui va aller être le plus suivi du côté de l'Allemagne ?
Alors, il y a toujours, par tradition, on a eu l'occasion de l'évoquer à l'occasion des éditions précédentes, Jalal, il y a toujours par tradition, allez, en moyenne, un à deux joueurs, soit francophones, soit anglophones, dans chaque club en Bundesliga, qui envoient un ou deux joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce qui est des dirigeants dans les clubs, là, on est un peu en vacances, c'est un peu le break, même si on est encore en période active de recherche de joueurs. Mais pour ce qui est des joueurs, effectivement, la saison se poursuit. C'est surtout en ce moment, ça a peut-être un petit peu évolué ces dernières années, c'est surtout en ce moment le nord de l'Afrique, le Maghreb en particulier, qui est concerné, avec des joueurs du Maroc particulièrement. Il y a aussi parfois un ou deux Égyptiens. Là, on a eu l'occasion aussi avec Hakim de l'évoquer tout au long de la saison. C'est le Maroc qui est le plus concerné. Et on a évoqué la destinée de Achraf Hakimi pendant la saison. On a suivi de près ses soucis physiques et ses performances sur le terrain. Et c'est ce joueur-là qui est le plus concerné et le plus en valeur en Bundesliga par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà donc la Coupe d'Afrique des Nations qui concerne énormément, bien entendu, cette Bundesliga allemande. Elle est à l'arrêt. Mais ça travaille dans les coulisses, surtout au niveau des transferts. Quelles sont les dernières nouvelles, David ?
Il y a un dossier qui va commencer à être très très chaud médiatiquement. C'est le possible transfert de Mats Hummels, retour de Mats Hummels du Bayern vers Dortmund, alors qu'en 2016, il avait fait le chemin dans l'autre sens. Et c'est quelque chose qui est une demi-surprise en fait. Ce serait une sensation pour les supporters de Dortmund, mais c'est une demi-surprise parce que c'est un dossier qui a déjà été évoqué. en Allemagne. On n'est pas forcément très surpris par cette idée-là. Et les deux parties peuvent s'entendre sur un transfert sans que les avis divergent trop. On souhaiterait, côté Dortmund, récupérer Mats Hummels, qui a été, je le rappelle, le meilleur défenseur de la deuxième partie de saison en Bundesliga. C'est quand même pas rien. On souhaiterait le récupérer aux alentours d'une vingtaine de millions d'euros d'indemnité. Côté Bayern, on voudrait un peu plus. On n'est pas forcément très gourmand, mais on aimerait être davantage, entre 25 et 30 millions d'euros. L'affaire peut se faire, d'autant plus que Mats Hummels accepterait une petite baisse de ses revenus, passer de 12 millions d'euros annuels à 10 millions d'euros à Dortmund. Dortmund accepterait cette transaction. Donc c'est le dossier vraiment chaud ces jours-ci et celui dont on discute le plus. Pour le reste, on est très patient en Bundesliga, notamment côté Bayern, parce qu'on veut essayer de réaliser des coups avant le 31 août, notamment en ce qui concerne les joueurs offensifs et le fameux ailier, le fameux joueur excentré qui pourrait être soit le roi Sané, soit un autre, peut-être Callum Hudson-Odoi aussi d'Angleterre. Le principal dossier, je le répète, ces dernières heures, c'est le possible retour de Mats Hummels de la Bavière vers la Roure.
Voilà, donc le retour annoncé de Mats Hummels du côté du Borussia Dortmund. Merci David, on va aller du côté de l'Angleterre. Bah, l'Angleterre où évoluent les meilleurs joueurs africains du moment. Bah, trois d'entre eux d'ailleurs ont fini ex aequo meilleur buteur de la Première Ligue. Seulement deux sont concernés par la CAN. Salah, bien entendu, pour l'Égypte. Sadio Mané pour le Sénégal. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, lui, n'est pas qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La Première Ligue anglaise avec notre cher Aurélien de Vernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, bonjour à tous.
Alors, bien entendu, en Angleterre, on suit de très près cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, qu'elle se joue et se dispute durant, bien entendu, l'été. Est-ce que ça a changé un petit peu la perception du côté de l'Angleterre par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations ?
Oui, forcément, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs évoluant dans les différentes ligues anglaises ou écossaises qui jouent cette compétition. Il y a encore quelques années, on avait, on va dire, une grosse poignée de joueurs qui étaient alignés durant la CAN. Et maintenant, on est plutôt entre 25 et 30 joueurs qui vont disputer cette compétition, qui viennent soit de la Première Ligue, soit de la Championship, la deuxième division, ou du championnat d'Écosse. Donc c'est vrai que c'est une délégation qui est extrêmement importante. Je me demande d'ailleurs, il faudrait vérifier ça, si c'est pas la deuxième délégation étrangère, on va dire, de joueurs évoluant en Europe derrière la France. Donc c'est quand même très important désormais. Les joueurs africains ont vraiment fait leur place dans les différents championnats d'Angleterre et ça se voit en effet, vous le disiez Jalal, au niveau des performances dans les grands clubs. Parce que imaginez Liverpool champion d'Europe cette année, Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita, le joueur guinéen, alors là qui a eu des blessures, mais qui normalement devrait pouvoir disputer cette CAN. Et c'est quand même trois joueurs majeurs de l'équipe de Liverpool, trois joueurs africains. Et il y a beaucoup d'autres joueurs aussi qui sont des valeurs sûres du championnat d'Angleterre. On peut penser à Idrissa Gueye, à Everton, il y a Cherou Konaté aussi à Crystal Palace. Et puis un joueur qui va faire... peut-être une belle compétition, qui en tout cas fait une très belle saison en Angleterre, c'est Wilfried Zaha, l'attaquant ivoirien, plus Riyad Mahrez, l'Algérien, qui lui a fait une saison un peu moyenne à City, mais qui a bien fini et qui va être la tête de pont de l'équipe d'Algérie. Autant vous dire que ça va être quand même très regardé du côté de l'Angleterre, et puis forcément, les scouts anglais vont regarder avec aussi beaucoup d'attention quels jeunes joueurs peuvent se révéler lors de la compétition. J'ai encore oublié des joueurs, par exemple Victor Wanyama, le milieu de Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions cette année. Donc c'est vraiment l'Afrique, les joueurs africains sont vraiment désormais un axe majeur du championnat d'Angleterre.
Voilà donc pour l'Angleterre. Reste avec nous Aurélien, on va aller du côté de l'Italie, où là aussi un contingent assez en tout cas nombreux de joueurs africains qui évoluent en Serie A italienne avec Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Oui, beaucoup alors, de joueurs et quelques stars aussi.
Beaucoup de joueurs et quelques stars, avec Asamoah du côté de l'Inter, par exemple, Koulibaly du côté de Napoli, Keita pour l'Inter. On parlera aussi côté marocain, bien entendu, du milieu de terrain de Sassuolo, Bourabia. Alors, comment est perçue d'abord la CAN du côté de l'Italie? Je pose un petit peu la même question qu'à Aurélien. Est-ce que maintenant que la CAN se joue en juin plutôt qu'en janvier et février, est-ce que ça a changé un petit peu la perception de cette compétition au niveau du public, mais surtout des clubs italiens?
Oui, c'est sûr que cet changement des dates a donné beaucoup de soulagement, on peut dire, aux dirigeants, mais même aux supporters qui, pour les semaines importantes de janvier, ont vu pour plusieurs années partir les stars du championnat italien, certains stars du championnat italien. Donc, on va voir si la CAN, dans ces nouveaux moments de l'année, va avoir un intérêt supérieur. Faut dire que bien sûr en ce moment il y a l'Euro Espoir, la Coupe du Monde féminine, la Copa América, donc il y a plein d'événements sportifs, mais je pense que la CAN aura une belle visibilité, surtout les supporters en Italie, que vous savez, sont fous pour les mercato, vont chercher de découvrir des nouvelles pépites, voir les joueurs plus suivis des grands football, des grands clubs italiens, comment vont se débrouiller dans la CAN. Mais je suis convaincu que c'est une belle fenêtre à niveau de mois de juin, meilleure qu'en janvier, surtout pour les entraîneurs et les dirigeants de club.
Alors Aurélien, de quoi on parle du côté de l'Angleterre? Le mercato, bien sûr, ça chauffe. Côté départ, on sait que Eden Hazard et la Première Ligue a perdu une des stars du football mondial. Est-ce que Eden Hazard sera remplacé par un joueur du même pédigré, du même calibre pour la saison prochaine et où?
Ah ben Eden Hazard, il va être quand même difficilement remplacé à Chelsea parce que Chelsea ne peut pas recruter. Donc ça, c'est vraiment un vrai souci. Après, j'entendais tout à l'heure David dire qu'il y avait des velléités en Allemagne d'aller recruter des jeunes prometteurs du côté de l'Angleterre. Par exemple, un joueur comme Callum Hudson-Odoi, qui a actuellement qui a une grave blessure, hein, qui s'est rompu le tendon d'Achille. Lui, à mon avis, Chelsea ne va pas le laisser partir parce qu'ils ont besoin de ces talents-là pour reconstruire l'équipe en vue de cette interdiction de transfert. Mais après, ce dont on parle beaucoup depuis deux jours, on va dire, en Angleterre, c'est de Paul Pogba, parce que Paul Pogba a exprimé, comme on dit, ses envies d'ailleurs. Il a dit dans une interview qu'il était prêt à aller relever un nouveau défi. Et donc ça, forcément, du côté de Manchester United, ça a été extrêmement mal pris. Sans vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de volonté du côté de Manchester de laisser partir le milieu de terrain français, tout simplement parce que là aussi, je voudrais le remplacer et que ce n'est pas évident. Donc ça commence à chauffer un peu du côté de l'Angleterre. Les transferts ont été pour l'instant relativement calmes, à l'exception donc d'Eden Hazard. Mais je pense que ça risque de s'accélérer très rapidement, probablement, on va dire, sur les joueurs européens là, dans la semaine, les 10 jours qui viennent. Ça devrait commencer à se décanter un peu. Et puis début juillet, pour ce qui est des joueurs sud-américains après la Copa América.
Ouais, Chelsea qui a perdu Hazard, qui a perdu aussi Sarri.
Oui, tout à fait. Bon, après, c'était prévisible. Hein. On savait que là, c'était terminé, que Sarri allait entraîner à Juventus, qui est d'ailleurs probablement une belle signature, hein, pour l'entraîneur italien, qui sortait, je l'avais dit, hein, d'une saison quand même très convenable à Chelsea, mais avec beaucoup de controverses et de tensions avec les supporters, avec le board, etc. Donc là, c'est plutôt un beau rebond pour Sarri. Maintenant, il va falloir voir comment Chelsea va rebondir de son côté avec son nouvel entraîneur. Le favori des bookmakers, des parieurs en Angleterre, c'est évidemment Frank Lampard. Mais bon, il peut toujours y avoir des surprises.
Alors, Sarri qui atterrit à la Juventus de Turin, c'était prévisible qu'il quitte, bien entendu, Chelsea, mais qu'il arrive à la Juve un peu moins. Quelles sont les nouvelles du côté de l'Italie au niveau du mercato qui se prépare? Est-ce que l'été s'annonce aussi chaud qu'en Espagne, Simone?
L'été, ça va être plus que chaud. Ça va être l'été la plus chaude de ces dernières, je pense, 10 années, parce que on va voir des situations vraiment compliquées partout, à rendre encore plus, je dis chaude, mais c'est vraiment irrespirable. L'air de Roma aujourd'hui a pensé à un monsieur qui s'appelle Francesco Totti, qui a quitté le club où il a passé ses 30 dernières années, en disant que lui n'avait jamais eu la possibilité d'avoir une mot décisif dans l'organisation du club, même pour les mercato, même pour le choix d'entraîneur. Il a fait un homme qu'en France connaît très bien comme Pastore, en disant ils ont pris un joueur qui est tout le temps blessé et moi je voulais prendre un autre joueur très fort de l'Ajax. On sait très bien qu'il parlait des Ziyech, qui était une des grands protagonistes de l'Ajax. Donc déjà Rome qui doit changer beaucoup des choses, qui va vendre Dzeko, qui va récupérer des joueurs jeunes, mais qui doit aussi vendre un cador comme Manolas, va avoir une situation hyper compliquée en interne et à l'extérieur, dans la ville des Romains. La situation, ça va être encore plus difficile à Turin, où les supporters, pour l'instant, ne sont pas du tout contents de l'arrivée de Maurizio Sarri et se demandent quel va être l'avenir du club, qui rêve de prendre une star comme Paul Pogba, mais on ne sait pas si sera le premier choix de l'international français quand il va quitter Manchester. Je ne dis pas s'il va quitter Manchester, mais je dis quand il va quitter Manchester. Imaginez d'autres dossiers très importants comme l'Inter de Milan, où Antonio Conte a eu un appel au téléphone direct avec l'agent de Mauro Icardi, que oui, aussi sa femme Vandanara, et lui a dit très simplement: Monsieur Icardi, cette année, je ne compte pas sur vous, donc allez chercher une autre équipe. Tout ça, c'est seulement concernant les départs et l'arrivée des entraîneurs. Imaginez qu'est-ce que ça va être ce mercato quand on va rentrer dans le vif du sujet.
Mauricio Icardi qui pourrait intéresser beaucoup de monde, même du côté de l'Angleterre, Aurélien.
Oui, complètement, parce que c'est quand même un profil de joueur qui est assez intéressant, Icardi. C'est-à-dire que déjà, il a une très grande régularité dans sa capacité à marquer. Hein. C'est un joueur qui peut marquer 20 buts par saison, quasiment chaque saison. Et puis, c'est un type de joueur qui est quand même apprécié en Angleterre sur ses capacités de mobilité. Il est finalement assez costaud aussi, même si c'est pas un gros gabarit, mais c'est un joueur qui est assez résistant. Il se blesse pas tant que ça. C'est un peu pensé à un Sergio Aguero, hein, par exemple. C'est vrai que ça pourrait être un profil qui pourrait intéresser une attaque dans gros d'Angleterre. La question, c'est laquelle ? Parce que finalement, l'équipe qui lui conviendrait probablement le mieux, ça serait Chelsea, mais Chelsea ne peut pas recruter. Manchester United va en effet probablement, outre Paul Pogba, sans doute perdre Romelu Lukaku, donc pourrait être intéressé d'engager un attaquant, mais pour l'instant ils sont plus chauds sur Nicolas Pepe, l'international ivoirien. Voilà, Icardi aussi pâtit, je pense aussi, un peu de sa réputation et de comment ça s'est passé à l'Inter ces derniers mois, ces dernières années. C'est un profil très intéressant, mais il va falloir que, je pense, qu'il montre un petit peu patte blanche s'il veut signer dans un gros club anglais.
Icardi, bien entendu, qui n'a pas vécu sa meilleure saison avec énormément de problèmes avec l'Inter de Milan. Merci beaucoup, Aurélien.
Merci, les amis.
Merci beaucoup également à notre consultant pour la Serie A italienne, Simone Rovera. Ciao, ciao, Simone.
Ciao, bonne semaine à tous.
Pas bon week-end, la semaine ne fait que commencer, mon cher ami. Allez, on va bien entendu suivre le gros événement de ce mois-ci, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019, avec une couverture exceptionnelle sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale avec notre envoyé spécial Fouad El-Hannaoui et toutes les émissions, 17h, 18h. L'après-match, Mehedine Lahalam, le club, l'avant-match et Studio Sport samedi dimanche. Toutes nos émissions presque exclusivement consacrées à cet événement, la Coupe d'Afrique des Nations. Ne ratez pas non plus à partir de jeudi prochain en soirée, Saad El-Khan, rendez-vous quotidien avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Mille merci d'avoir suivi. Conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing.
I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know why we walked away. Pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you. Oh yeah, can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah, can we pretend that we won't like the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality bores me. Let's pretend. Take for granted how our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is I know what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day. When you tell me what you're thinking, but I already know. Screw this, I don't wanna let it go. Oh yeah, so can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you. Oh yeah, that we all end up okay. I just wanna forget with you. Oh yeah, can we pretend that we won't like the way it is? Hell yeah, can we pretend that we like these fake outdoors? Oh yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend? I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake-out shoes?